Bonsoir, comment allez-vous ? Jusqu'au 2 avril, le Centre Pompidou à Paris expose plus de 250 œuvres soviétiques et russes contemporaines. Il y a un vrai climat dans cette exposition qui s'appelle « Collectia ». À travers les œuvres, on devine l'histoire et en même temps, si on connaît l'histoire, on comprend mieux les œuvres. Le jour où j'y suis allée, ça parlait russe parmi les spectateurs et ça amplifiait l'effet apaisant et excitant d'être en Russie. Et pour ceux qui ne parlent pas russe, ça amplifiait aussi l'effet de fonctionner à la sensation et non pas à la connaissance. À un moment donné, nous nous retrouvons dans une petite pièce dont les murs sont recouverts de photos, grand format, de visages de jeunes filles d'une quinzaine d'années, parfois moins. Sept d'entre elles étudient dans une école élitiste de Moscou et sept autres purgent une peine de prison pour meurtre. Si nous ne lisons pas le panneau avant d'entrer dans la pièce, nous ne voyons pas qui est qui.
Bonjour, je m'appelle Maceo Chapon, j'ai 10 ans et j'habite à Bazouf-Souédé. Ma question est, pourquoi il y a plus d'hommes que de femmes hors la loi ? Merci de me répondre, au revoir.
Merci pour ta question Maceo et sa belle précision. Pourquoi il y a plus d'hommes que de femmes hors la loi ? Jean-Marie Delarue, ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté. D'abord, est-ce vrai ?
Oui, c'est vrai. Maceo pose une très bonne question et qui dénote un bon talent d'observation. Savez-vous combien il y a de femmes en prison en France aujourd'hui ? 3,5%, 3,5%. C'est-à-dire que pour 100 personnes en prison, il y a 3 femmes et demie, si je puis dire.
Ouais.
Bon, c'est très faible. Ouais. Et ce qui est remarquable, c'est que dans la plupart des pays, on va dire industriels, que nous connaissons autour de nous, c'est la même chose. Bon. Alors, la question, c'est pourquoi ? Eh bien, je vais dire à Mathéo que je ne sais pas très bien. Il y a des choses qui sont conformes à la manière dont on élève les femmes par rapport aux hommes, vraisemblablement. Il y a des choses qui ressortent du domaine biologique, la fameuse testostérone.
Bon. Peut-être que la violence des femmes est verbale, et du coup, quand on détruit quelqu'un psychologiquement, on est moins puni que quand on détruit quelqu'un physiquement.
Oh, la violence des hommes est verbale aussi, il y a qu'à voir deux automobilistes qui sont en désaccord. Mais je crois que les femmes savent que la force physique n'est pas un argument qu'elles peuvent employer. La violence comme moyen de règlement des conflits est beaucoup plus utile à la gente masculine.
Ouais.
Mais en tout cas, je rends hommage aux femmes et si, par extravagance, nous étions dans une société de femmes, il y aurait beaucoup moins d'infractions dans notre pays.
C'est drôlement intéressant.
Ça laisse rêveur, hein ?
Ben oui, comme vous dites forcément. 3,5%, non mais la différence est énorme.
Et encore, dans ces 3,5%, il faut avoir une pensée pour ces malheureuses qu'on appelle les mules, qui amènent la drogue des pays d'Amérique latine, la cocaïne notamment, et qui sont des femmes très pauvres qui ont accepté des offres de transport parce qu'elles croyaient qu'elles allaient faire fortune comme ça et qui, en réalité, quand on les interroge, regrettent beaucoup, beaucoup ce qu'elles ont fait. Donc, ce sont des accidents, si je puis dire, et auxquels la pauvreté les a contraints. Sinon, il y a des femmes aussi dont le sort est très triste, qui sont les femmes qui ont subi pendant des années des violences conjugales et qui un jour se rebellent et puis ça tourne mal et le mari
elle tue
est
le mari.
Tué. Voilà. Bon. Et puis il y a les femmes qui sont prises dans des cycles de consommation de stupéfiants et quelquefois de trafic de stupéfiants pour payer sa consommation. Mais il y a très très peu de femmes qui sont là pour violences volontaires, pour crimes organisés, etc., etc. Voilà, c'est la réalité des choses. Bon, et puis il faut parler un peu des personnels de prison. Et l'occasion m'en est donnée là. Il y a des femmes qui sont surveillantes de prison, par exemple. Elles sont minoritaires, mais il y en a à peu près un quart aujourd'hui. On voit bien qu'elles ne cherchent pas à s'imposer aux détenus, même un peu vindicatifs par la force. Elles cherchent à s'imposer par la rigueur du règlement ou bien par la conviction.
Vous dites qu'il y a un quart des femmes qui sont surveillantes de prison alors qu'il n'y a que 3,5% des femmes qui sont incarcérées, ce qui veut dire qu'il y a des femmes qui surveillent des hommes.
Exactement. Il n'y a pas d'hommes qui surveillent des femmes, ça c'est interdit par le règlement pénitentiaire, mais il y a des femmes qui surveillent des hommes en effet.
Merci Jean-Marie Delarue. Nous serons dans les petits bateaux de ce soir. Pourquoi quand quelqu'un baille, il arrive à faire bailler les autres ? Comment on fabrique de la neige ? Et comment et pourquoi il y a plusieurs couleurs de peau sur cette terre ? Ces questions ont été posées par les enfants, petits et grands, au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Martin. Je voudrais savoir comment les scientifiques du Moyen-Âge ont-ils découvert que la la Terre était ronde.
Bonsoir Martin. Comment les scientifiques du Moyen-Âge ont-ils découvert que la Terre était ronde? Ta question est bien formulée. Nous l'avons proposée à un historien, Alain Dagneau, qui vient d'écrire un livre très amusant, un gros livre chez Larousse, Le grand bêtisier de l'histoire de France.
Oui, la question est passionnante, effectivement, parce que souvent on pense que on a découvert que la Terre était ronde avec des gens comme Galilée et Copernic, c'est-à-dire au début de la Renaissance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même dès l'Antiquité, il y a beaucoup de savants qui avaient pensé que la Terre, c'était comme une balle, un gros ballon de football, disons. Ils avaient même mesuré la circonférence de la Terre. Il y en avait un en 200 avant Jésus-Christ qui avait constaté que ça devait faire à peu près 40 000 km, ce qui était très proche de la réalité.
Qui ça?
Alors, il s'appelait Ératosthène, et c'est vrai que après cette invention, cette découverte a été un peu oubliée au Moyen-Âge. Et c'est vrai qu'on pensait que la Terre était une espèce de gros disque plat. D'abord parce qu'on disait, c'est pas possible que de l'autre côté de la Terre, il y ait des gens qui aient la tête en bas.
Ah oui.
C'était aussi simple que ça. Et on pensait que la Terre était entourée d'eau et que au-delà de l'eau, il y avait le vide. Si bien que quand Christophe Colomb, en 1492, est parti à la découverte de l'Amérique, il fallait un courage très particulier.
Oui.
Il se disait, voilà, on risque de se jeter dans le vide. Et les marins, par exemple, à un moment, s'étaient révoltés pour ça. Mais il y a des choses très étonnantes. J'aime bien la question de Martin parce que il y a effectivement les savants qui avaient analysé, qui s'étaient dit probablement la Terre est ronde, mais il y avait une jeune femme, une paysanne. Elle s'appelait Alpée et elle vivait en Bourgogne, dans l'Yonne. Et alors, c'était une lépreuse qui était tellement laide avec sa lèpre que ses parents l'avaient abandonnée. Ils l'avaient laissée sur une litière dans une étable et ils la nourrissaient même pas. Chose très curieuse, c'est que pendant 40 ans, elle n'a rien mangé. Et elle a pourtant survécu. Il y avait des gens qui venaient la voir. Après, bien sûr, sa réputation était devenue grande parce que quelqu'un qui ne mange pas pendant 40 ans, ce n'est pas possible.
C'est un miracle.
C'est un miracle. Et en fait, elle était devenue visionnaire, elle avait des visions. Et un jour, elle raconte, et on a sa vision, puisqu'elle a été prise par écrit par un clerc, et elle disait, c'est bizarre, je me suis échappé de moi-même, je me suis retrouvé à regarder la Terre. Alors la Terre n'est pas plate, disait-elle, c'est en 1200, 3 siècles avant Galilée et Copernic. C'est une boule qui se promène dans l'espace. Et chose plus étonnante à cette époque-là, elle disait, mais le soleil est beaucoup plus gros que la Terre. Alors qu'à cette époque-là, on pensait que le soleil était beaucoup plus petit et qu'il n'était là que pour chauffer la Terre et l'illuminer. Et
mais
elle
comme...
disait pas du tout. Le soleil est plus gros.
C'est incroyable et triste ce que raconte Alain Dagneau. Parce que cette pauvre fille, non seulement elle était malade, elle était au régime sec, et tout le monde l'a prise, probablement à cette époque-là, mais même d'ailleurs si ça se passait maintenant, pour une folle dingue, alors qu'elle disait la vérité.
C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges à l'abominable enfant qui n'est qu'un amour de dessert.
Banana Split, c'était Lio. Le docteur Frédéric Salmann conseille la banane au chocolat au début du repas comme coupe-faim naturel. C'est vrai que ça cale.
Les petits bateaux sur France Inter.
Bon, vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants nous posent des questions et nous, aux petits bateaux, nous trouvons des savants pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 12 ans et je voulais savoir pourquoi et comment il y a plusieurs couleurs de peau et plusieurs origines. Merci de me répondre. Au revoir.
Oui, bonjour, je m'appelle Elina et j'aurais voulu savoir quelle est l'origine des différences de couleurs de peau des hommes.
Bonsoir Lola et Elina, c'est Evelyne Heyer qui est professeure en anthropologie génétique au Muséum qui va vous répondre.
Alors, bonjour, la question de la couleur de peau, elle est étudiée depuis plusieurs années et en fait, on sait que les couleurs de peau dépendent du climat. On a en général une couleur de peau noire dans les climats où il y a beaucoup de soleil parce que dans la couleur de peau, elle est faite de la mélanine, ce qu'on appelle la mélanine, ce pigment qui fait qu'on est plus ou moins foncé et ça protège du soleil. Donc là où il y a beaucoup de soleil, en général, on a des couleurs de peau noire et à l'inverse, dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de soleil, eh ben on a quand même besoin de capter les rayons du soleil et pour ça, on a eu ce qu'on appelle de la sélection, c'est-à-dire qu'on a eu des transformations pour une couleur de peau de plus en plus claire. Et à partir de ces rayons du soleil, ça permet d'assimiler ce qu'on appelle la vitamine D qui permet de grandir. Donc c'est pour ça qu'on retrouve en gros la carte de la couleur de peau colle à peu près avec la carte de l'ensoleillement du soleil sur la planète.
À propos d'ensoleillement, ceux qui ont la chance d'être à la montagne en ce moment espèrent deux choses, le soleil et la neige, ce qui ne va pas forcément ensemble.
Bonjour, je m'appelle Célia, j'ai 7 ans et je voudrais savoir comment on fabrique de la neige artificielle. Merci, au revoir.
Je m'appelle Capucine, j'ai 9 ans et j'aimerais savoir est-ce qu'il y a une différence entre la neige des canons à neige et la neige qui tombe du ciel en flocons. S'il y en a une... Laquelle ?
Merci Célia et merci Capucine. Nous proposons vos deux questions au directeur du Centre d'études de la neige qui est basé à Grenoble. Vous êtes Samuel Morin, donc chercheur en physique de la neige. Vous dépendez de Météo France et du CNRS qui vous a récompensé de la médaille de bronze du CNRS en 2017. Est-ce que vous pouvez répondre à Célia et Capucine ?
Oui, Célia et Capucine, c'est une bonne question et je vais commencer par dire ce qui est la même chose entre la neige qu'on appelle maintenant la neige de culture en général. C'est le terme que les pratiquants utilisent. Alors, à la base, la neige naturelle, celle qui tombe du ciel, et la neige de culture, celle qu'on fabrique avec des machines, ça a la même composition. C'est de l'eau gelée qui forme des cristaux et qui s'empile à la surface de la Terre ou en particulier sur une piste de ski, pour ce qui nous intéresse. La différence, c'est que la neige naturelle, celle qui tombe du ciel, elle se produit dans les nuages et c'est de la vapeur atmosphérique qui vient condenser sur des petits germes atmosphériques, des petites poussières, et qui forment des cristaux de neige. Les fameux cristaux à 6 branches, mais il en existe de beaucoup de formes différentes. La neige de culture, c'est des micro-gouttelettes d'eau qui sont congelées au sortir du canon, au sortir de l'enneigeur, et dont on espère qu'elle va avoir le temps de geler avant d'arriver à la surface de la Terre. Donc le parcours peut faire quelques mètres, quelques dizaines de mètres, et en gros, on espère que le petit jet de gouttelettes d'eau qui est émis par ce canon va avoir le temps de geler avant d'arriver à la surface.
En fait, c'est plus un vaporisateur qu'un canon.
C'est une sorte de vaporisateur qui émet des petites gouttes d'eau qui gèlent. Et donc, à la fin, la neige telle qu'on la retrouve sur la piste, c'est un empilement de billes de glace. Et de ce fait-là, un empilement de billes de glace, à la fois ça ressemble sur le fond à la neige, et à la fois c'est très différent, puisque ça n'a pas la même diversité de formes. Les cristaux, les différents tops de cristaux de neige qu'on retrouve dans la neige de précipitation naturelle, c'est pas tout à fait la même chose. Même si ça a la même composition chimique, même si c'est fait avec les mêmes ingrédients.
Bon, et puis s'il n'y a pas neige, c'est pas si grave. Hein. Le principal, c'est d'être à la montagne.
Keeping my head well trained, watching truth come grain by grain. Just the ones I wanna hear that something is mine.
looking back, saying might be trouble. Can't say that I haven't been trying. Oh, you put me on the midnight train. Every car's running through my brain. Just once I wanna hear that something is mine.
C'était Nick Waterhouse, It's Time.
Oh, oh, excusez-moi, vous écoutez les petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Yann, j'ai 8 ans et demi. Je voudrais savoir pourquoi, quand on baille, la personne qui est devant nous baille. Aussi, merci.
Bonjour, je m'appelle Mathilde et j'ai 13 ans et je voudrais savoir pourquoi lorsqu'on baille, la personne à côté baille aussi. Merci.
Docteur Olivier Waluzinski, vous êtes médecin et vous vous intéressez au bâillement. C'est vrai que le bâillement, comme on dit, c'est contagieux. Non, c'est pas le bon mot.
C'est l'expression courante, c'est dire que le bâillement est contagieux, mais la contagion sous-tend une transmission d'un virus, d'un microbe.
Non, c'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas. Les personnes qui s'occupent des comportements animaux, qui font de l'éthologie, ont le mot qui s'appelle une réplication comportementaire. C'est une photocopieuse à comportement. Et puis, Jean-Martin Charcot, le célèbre neurologue de la Salpêtrière à la fin du 19e siècle, a inventé le plus joli mot qui s'appelle une échokinésie, un mouvement en écho.
Échokinésie, donc on le voit et on le fait. Pourtant, le bâillement n'est pas commandé.
Le bâillement est involontaire et la réplication, l'échokinésie, est involontaire. Mais même les aveugles, qui ne perçoivent pas le voisin, baillent. Et si une famille sur l'autoroute part en vacances, un des membres de la voiture baille, ils ne se regardent pas les uns les autres, et les autres membres de la voiture vont bailler. Et il y a actuellement des travaux auxquels je participe, qui sont faits au Mexique, qui montrent que chez le rat, l'odorat est indispensable à la réplication d'un bâillement entre troupeaux de rats familiers. C'est l'odorat qui est l'élément qui permet la transmission. Si on met une vitre entre les rats, ils ne baillent plus de façon contagieuse.
Donc, c'est pas la vue.
C'est pas la vue. C'est tout un ensemble comportemental. Mais si on réfléchit, nous avons beaucoup de comportements que nous imitons sans le vouloir.
Ah bon ?
Quand vous allez au spectacle écouter des comiques, vous riez beaucoup plus que quand vous regardez seul devant votre télévision le même comique. C'est-à-dire qu'il y a un entraînement, une réplication du rire et des émotions.
Bien sûr, c'est pour ça qu'on met des fous rires.
Et si quelqu'un pleure, ça va avoir tendance à vous donner envie de pleurer.
Évidemment.
Donc le bâillement fait partie des comportements peut-être un peu plus sensibles que les autres et de façon plus spectaculaire. Et d'autre part, c'est involontaire. C'est-à-dire que celui qui bâille le fait involontairement, celui qui reçoit le bâillement le fait involontairement, mais il faut qu'il soit dans un état intellectuel qui est ni le sommeil, bien sûr, ni une concentration intellectuelle soutenue. Ça ne se produit pas dans n'importe quelle circonstance. S'il est en train de faire quelque chose où il est concentré sur son travail, il va être insensible au bâillement de son voisin. Il faut être entre deux eaux, comme on pourrait dire. Pas endormi, mais pas très bien éveillé. C'est pour ça que vous voyez beaucoup dans le métro de personnes qui baillent, parce qu'elles s'ennuient, c'est long, elles sont fatiguées, donc elles baillent, et les gens autour vont bailler, parce qu'ils sont dans le même état. Mais celui qui est en train de jouer sur son téléphone portable à Candy Crush ne va pas bailler.
Et voilà comment se transmet le bâillement.
Allô, je m'appelle Colline, et j'ai 7 ans et demi. Je voudrais savoir pourquoi quand vous répondez aux questions des enfants, vous prononcez des mots que nous ne connaissons pas. Merci, au revoir.
Parce que c'est la meilleure façon d'en apprendre de nouveau. Colline, quand tu étais un tout petit bébé, tu n'entendais que des mots que tu ne connaissais pas et c'est ainsi que tu as appris à parler. Maintenant, peut-être que Colline, tu trouves que les réponses des savants sont parfois difficiles à comprendre pour des enfants. C'est vrai. Mais les petits bateaux ne s'adressent pas qu'aux enfants, mais aussi aux adultes. Et nous espérons que les seconds éclaireront les premiers. Pour poser une question, vous faites le 01 56 40 43 57.
Coucou, c'est Eve. J'aimerais savoir pourquoi les loups aboient le soir.
Geneviève Carbone, pourquoi les loups aboient le soir? Vous êtes ethnozoologue.
Mais en fait, ils aboient pas que le soir.
Ah bon?
Et on va même aller plus loin. Ils aboient pas, les loups. Les loups jappent. L'aboiement est quelque chose qui a été développé avec la domestication du chien. C'est-à-dire qu'on est parti du jappement du loup pour obtenir l'aboiement du chien.
Mais c'est quoi japper? C'est comme fait le renard?
Japper, c'est... Voilà, c'est un peu comme fait le renard. C'est un aboiement très bref.
Queen.
Voilà. C'est juste ça. Les loups ont toute une gamme toute une technique de communication. Ça commence par toutes les mimiques. C'est très expressif du visage, un loup. De toute la gestuelle du corps. Il va avoir la queue levée, il va y avoir les oreilles baissées, il va avoir une posture du corps.
Et puis, il penche la tête comme le chien, le loup.
Voilà, il va pencher la tête, il va courber tout le corps pour présenter des signes de soumission, où il va arriver très en avant, comme ça, les épaules dressées, très sur ses antérieurs. Et puis, il y a tout ce qui relève de la communication auditive. Ça va du couinement jusqu'au grognement. Et jusqu'au hurlement, dont on a...
Ouh,
voilà, ça, absolument. Ouais. Et ça, c'est vraiment une technique de communication qui fait beaucoup, beaucoup réfléchir. On l'associe à la pleine lune, on l'associe à la forêt, on l'associe à la nuit, on l'associe à des espaces intégralement sauvages, le hurlement. Ça fait résonner quelque chose en nous, c'est de l'ordre de l'écho profond. Et on va lui attribuer énormément de sens. On va dire que c'est par là qu'il communique avec d'autres meutes. Or, un loup ne peut pas appeler une meute qu'il ne sait pas être présente. Il n'a pas ces compétences cognitives-là. En fait, on se rend compte que quand une meute hurle, tous les animaux se rapprochent et se touchent. C'est vraiment un beau ballet. C'est-à-dire que non seulement ils participent ensemble à une même émission vocale, mais il y a des contacts corporels très très étroits. Donc ce qu'on pourrait imaginer, c'est quand un loup hurle seul dans la nature, il est en situation d'inquiétude et en émettant ce hurlement, il revit corporellement ce sentiment de fusion de la meute. Et donc, ça le rassurerait. Mais c'est une hypothèse.
Les petits bateaux sont terminés sans être tout à fait terminés pour ce soir, puisque bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur le site des petits bateaux ou bien télécharger cette émission, l'écouter quand bon vous semble et la partager. Merci à Marjorie Devoucou et Eliane Girard, merci à Jean-Baptiste Audibert et Théo Goumard. Nous nous retrouverons dimanche prochain, mais tout à l'heure, à 22h30, nous avons rendez-vous dans État d'esprit où nous recevrons Françoise Hardy avec qui nous parlerons des mystères de la vie.